Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Campus Rennes. Et c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve ce soir puisque c'est la première du nouveau magazine high-tech de Radio Campus. High-tech News vous sera présenté tous les vendredis sur Radio Campus de 19h à 20h par moi et une équipe de trois chroniqueurs à côté de moi. J'ai nommé Clément.
Bonjour.
Gillian.
Bonjour.
Et Benoît.
Ouais, bonjour.
Alors on commence rapidement par le sommaire de l'émission puisque ce soir on vous parlera futur. Futur proche puisque pas plus tard que ce matin nous avons eu l'occasion de tester les Google Glass. Je vous parlerai un petit peu plus en détail des lunettes pour mieux comprendre l'utilité et les usages des nouvelles lunettes de Google. Dans un second temps, Gillian vous en dira un peu plus sur l'iPhone 5S et 5C fraîchement sorti en France après une keynote à demi-teinte pour Apple. Puis Clément nous parlera de GTA Online et de l'intérêt du mode multijoueur du best-seller de Rockstar nouvellement sorti. Puis nous finirons les chroniques sur l'info de la semaine avec Benoît et les nanotubes de carbone utiles à la nanotechnologie. En deuxième partie d'émission, on consacrera au débat 19h30 qui parlera cette fois-ci de GTA. Satire ou violence, on vous donnera notre avis sur le titre de Rockstar. Pour l'instant, on va vous parler brièvement des Google Glass puisque j'ai eu l'occasion ce matin de les tester au studio AMA, Advanced Mobile Application. C'est un studio mobile localisé sur Rennes qui travaille sur le développement de plusieurs jeux sur tablettes, mobiles, iPhone, iOS, qui ont été téléchargés plus de 12 millions de fois sur le Google Play. C'est aussi l'une des deux entreprises en France avec Google qui possède la fameuse paire de lunettes et qui travaille sur les usages liés aux jeux vidéo. À première vue, les Google Glass, c'est quoi ? C'est un cadre de lunettes, une monture, avec un tout petit verre juste au-dessus de l'œil qui va vous transmettre une petite diffusion sur, devant votre rétine, qui va vous permettre d'avoir une interface qui se modèle face à vous et qui va donc vous présenter les différentes applications de Google qu'on connaît déjà via les téléphones Android ou Windows Phone, par exemple. Alors, depuis 2012, ces lunettes sont disponibles aux développeurs pour la modique somme de 1 500 $ pièce. Et elles permettent aux développeurs de travailler avec tous les outils qu'il faut sur cette paire de lunettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que AMA, c'est un studio donc, qui a quelques anciennetés, qui est l'une des sociétés sœurs de Ubisoft, et qui ont eu la chance d'avoir ces lunettes justement après une conférence aux États-Unis. Pourtant, Google est assez restreint sur la possibilité de développement autour de ces lunettes. Mais cette fois-ci, ils ont décidé de faire une fleur à l'entreprise française et à permettre le développement des usages du jeu vidéo. Donc voilà un petit point sur l'arrivée de ces Google Glass à Rennes et sur leur utilité, puisqu'elles fonctionnent en liaison avec un téléphone Android. Donc pour l'instant, de ce que j'ai pu en voir, uniquement lié au téléphone, on va avoir basiquement la caméra qui est juste à côté de l'œil qui va nous permettre de capter ce qu'on verra instantanément avec les lunettes et de prendre des photos. On va avoir aussi les différentes applications qui sont liées au système Android, c'est-à-dire GPS, calendrier, message texte, mail. Vous allez pouvoir recevoir toutes les informations de votre téléphone directement sur votre pupille. Et puis les lunettes possèdent un pavé tactile sur le flanc qui permettent de switcher entre les menus assez rapidement. Alors contrairement à ce qu'on a pu voir dans les différentes pubs de Google, les glaces ne transmettent pas directement face à votre vision, pas face à la rétine. Les glaces diffusent légèrement au-dessus de votre rétine, ça vous demande d'aller jeter un petit regard à l'écran pour pouvoir voir les informations, et ça efface toute rumeur qui pouvait dire que les glaces pourraient être dangereuses au volant ou autre, puisque de toute manière, quand vous regardez face à vous, vous n'êtes pas gêné par l'interface. Et il faudra vraiment aller chercher d'un coup d'œil, comme vous allez devoir chercher d'un coup d'œil votre GPS en voiture pour pouvoir voir les informations s'afficher devant vous. Alors le plus surprenant, c'est le son. Le son, il est vraiment très particulier sur les Google Glass puisqu'il n'est pas émis via des écouteurs. Vous n'avez aucun casque, aucun écouteur à vos oreilles et le son va être directement transmis dans la cavité osseuse de votre oreille. Alors c'est un petit peu particulier, je vous avoue que je ne comprends pas totalement comment ça fonctionne. Mais le fait est que les glaces envoient simplement une onde à votre oreille qui sera pas entendue par vous. Vous entendrez un son, mais les gens autour de vous ne peuvent absolument pas entendre ce que vous êtes en train d'écouter. C'est-à-dire que votre baladeur, vous serez le seul à l'écouter, peu importe le volume de vos Google Glass. Alors voilà un petit peu pour le point qu'on a pu faire avec AMA. Déjà, on commence à avoir, à voir le système se mettre en place. Elles sont prévues, ces lunettes, pour fin 2014 en Europe. Le prix devrait avoisiner les 400-500 euros, donc un jouet qui sera adressé à ceux qui ont les moyens de l'obtenir. Et déjà, on voit quelques petites polémiques arriver autour des Google Glass, avec notamment l'interdiction aux États-Unis de les utiliser dans certains lieux publics et dans des bars, à cause de la facilité de prendre des vidéos avec ces lunettes. Et puis, une nouvelle qui va ravir les annonceurs, un peu moins les usagers, c'est la capacité de ces Google Glass à capter les émotions de votre cerveau et donc de voir comment votre cerveau réagit à ce que vous allez voir. Par exemple, vous allez voir une pub dans la rue, les lunettes vont être capables de dire si cette pub a un effet sur vous, puisqu'elle va capter les émotions de votre cerveau. Les annonceurs vont sans doute payer très cher pour pouvoir obtenir les informations tout droit sorties de votre cerveau. Alors, on passe à une autre grosse marque américaine qui sortait cette semaine sa nouvelle gamme de téléphones, et c'est le sujet de la chronique de Gillian.
Alors donc, moi aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'iPhone 5C et du 5S, plus particulièrement du 5C. Donc, Apple a sorti sa nouvelle gamme de téléphones le 20 septembre dernier. Ce n'était pas une sortie mondiale à proprement parler, puisqu'il y a seulement 11 pays qui étaient concernés, dont la France. Donc, le 5S, c'est un peu, on va dire, le nouveau fleuron de la marque. Et le 5C était plutôt présenté comme un téléphone un peu moins cher. Donc en commençant par le 5C, on va dire que c'est un téléphone qui a été annoncé comme low cost alors qu'il n'a jamais été qualifié de cette façon-là par la firme. En fait, on pourrait dire que le 5C, c'est pas vraiment un nouveau téléphone. C'est un nouvel iPhone 5, en fait. C'est-à-dire qu'il ne change pas tellement de l'ancien. Le vrai changement va être plus au niveau du design, avec donc une façade arrière qui va être en plastique sur le 5C. On pourrait croire que ça le rendrait plus léger et moins épais. En fait, c'est tout le contraire. Il est plus lourd de 20 grammes et il est un tout petit peu plus épais. Ça peut paraître dérisoire comme ça, mais dans la main ou dans la poche, ça se ressent. Sinon, au niveau technique, le 5C et le 5 se valent. C'est-à-dire qu'on a les mêmes caractéristiques. Sur le 5C, on a l'écran 4 pouces Retina qu'on avait déjà sur le 5. C'est le même processeur. On a 1 giga de RAM. Une capacité de stockage de 16 ou 32 gigas, un capteur 8 mégapixels pour ce qui est de l'appareil photo. Ça va être le design qui n'est pas tout à fait le même que l'iPhone 5C. Pour ce qui est du 5S, il n'y a pas d'énorme innovation dessus, c'est une continuité logique du 5. Le design est le même. Les deux nouveautés que moi j'ai relevées, ça va être surtout un capteur biométrique, c'est-à-dire que le téléphone va pouvoir reconnaître votre empreinte. Alors ça, on ne sait pas encore si ça marche très bien, mais il s'avère que si le téléphone ne reconnaît pas votre empreinte 3 fois de suite, il va vous demander le mot de passe, et s'il ne la reconnaît pas, si vous avez 5 échecs à la reconnaissance digitale, il va vous le demander obligatoirement, le mot de passe. Une autre nouveauté aussi, ça va être que donc le 5S il sera équipé d'une caméra slow motion, c'est-à-dire qui permet de filmer au ralenti. Alors moi j'ai vu ce que ça rendait, ça rend plutôt bien parce que ça filme quand même en 1080p, donc en HD. Sinon on a donc à noter comme nouvelle sur le 5S, on a changement de processeur. Donc ça passe du A6 au A7, on passe en 64 bits. Donc le 5C sera disponible à partir de 600 euros, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un téléphone low cost. Et le 5S plus à partir de 700 euros. Donc je dirais simplement que le 5C, c'est pas vraiment un nouveau téléphone, c'est juste un iPhone 5 en plus lourd et plus épais pour environ 80 euros de moins. Donc à ceux qui auraient été intéressés par le 5C, plutôt partir sur un iPhone 5 ou bien passer directement pour 100 euros de plus un iPhone 5S, parce que quand on met 600 euros dans un téléphone, mettre 700 euros pour une meilleure qualité, je trouve pas ça complètement onéreux.
Ouais, clairement, tu conseillerais pas à un possesseur de l'iPhone 5 d'acheter l'un de ces deux nouveaux téléphones d'Apple ?
Le 5S, si, en quelque sorte, mais c'est vraiment le 5C pour des nouveaux utilisateurs Apple, il est bien, parce qu'il est un petit peu moins cher que le 5, mais c'est pas la peine de troquer son iPhone 5 contre un iPhone 5C. Vous aurez le même téléphone, mais en plus gros.
Ok, on passe à un univers différent, mais avec une grosse attente aussi. C'est GTA Online qui ouvrait ses portes mercredi. Clément, t'as eu l'occasion d'essayer de le tester au moins. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est ?
Oui, essayer de le tester, c'est exactement ça, parce que comme je vais l'expliquer bientôt, il y a plutôt pas mal de soucis pour le lancement de ce jeu. Mais donc, on va commencer par le commencement. GTA Online, c'est le dernier jeu de Rockstar Games. Et pour ceux qui ne savent pas, Rockstar Games, c'est pas que GTA, c'est pas mal d'autres jeux très intéressants comme Bully, Manhunt, Max Payne ou la série des Red Dead. Mais si j'en parle, c'est bien parce qu'il y a quand même un rapport entre GTA et Red Dead Redemption, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Rockstar Games s'est mis au multijoueur très récemment, donc avec l'arrivée de cette génération de consoles, donc PS3 360. Donc c'est une grosse attente qu'on a pour GTA Online, parce que GTA Online, c'est quand même censé être la synthèse de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent en matière de multijoueur, et on a vraiment envie de savoir où ils en sont. Donc GTA Online, en fait, est disponible chez nous depuis le 1er octobre à 13h. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire pour l'instant? Pour beaucoup de gens, pas grand-chose, parce que malheureusement, le GTA Online, son lancement est complètement raté, enfin chaotique, mais malheureusement prévisible d'une part, parce que GTA Online est victime du succès de GTA V, qui à son arrivée a fait l'effet d'une bombe dans le paysage vidéoludique. Je le rappelle, GTA V, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires en seulement 3 jours, donc les serveurs n'ont tout simplement pas tenu le coup au lancement. En revanche, je pense qu'il ne faut pas condamner le titre trop vite parce que il est quand même annoncé avec un très très gros contenu, des efforts énormes faits pour empêcher les joueurs dans les modes libres de trop se marcher dessus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les multijoueurs de Rockstar, Rockstar Games, je vais expliquer rapidement. Le multijoueur de GTA, c'est comme pour beaucoup de jeux, c'est d'abord des multijoueurs compétitifs, donc on a du deathmatch, du team deathmatch, de la capture, mais c'est quand même le gros argument de GTA Online, c'est un mode qu'on appelle le mode libre, où en fait on a la carte du jeu du mode solo et sur laquelle on peut faire absolument ce qu'on veut avec ses amis. Donc ça a vraiment pris de l'ampleur avec Red Dead Redemption, et sur Red Dead Redemption, le mode libre avait quand même de gros problèmes, notamment en termes de liberté. Le jeu en était trop libre car il manquait vraiment de contenu, et résultat, en fait, les joueurs passaient leur temps à se tirer dessus plutôt qu'à vivre une espèce d'expérience qui pourrait vraiment inciter au roleplay, et donc ça se voyait gâché par ce manque de contenu. Donc GTA Online est annoncé comme un jeu qui va corriger ce défaut, d'une part parce que par ce contenu énorme, parce qu'on parle quand même de 500 missions scénarisées qui donc tiendront en haleine la plupart des joueurs, les empêchant de partir un peu à volo et ruiner la partie des gens qui souhaiteraient une expérience plus roleplay ou juste avec leurs amis sans pour autant chercher l'affrontement. Il y a des modes compétitifs pour ça dans GTA Online. D'ailleurs, le producteur Leslie Benzies a communiqué dernièrement à ce sujet. Donc il a bien confirmé que c'était vraiment une volonté de leur part de renforcer ce côté expérience multijoueur sans pour autant se tirer dans les pattes.
On la sent arriver, par exemple, cette tôle de Rockstar avec ce GTA. C'est pas courant qu'un éditeur décide de retarder le lancement de son mode multi à quelques semaines après, et puis finalement le lance dans des situations un peu chaotiques comme ça.
Alors oui, en effet, parce que le jeu multijoueur de GTA Online n'est pas sorti en même temps que GTA V, qui est sorti le 17 septembre, et la sortie du multijoueur a été retardée de un mois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur GTA Online? GTA Online, c'est des idées assez qui paraissent intelligentes quand même. On se demande comment d'autres jeux n'ont pas pu y penser, notamment au niveau de la création de personnages. Donc ça a certaines limites quand même, parce qu'en essayant le jeu, on a quand même pu aller au moins jusqu'à la création du perso. Et en fait, il s'agit dans GTA Online de créer son personnage à partir des membres de sa famille. C'est-à-dire qu'on va déterminer les grands-parents et les parents du personnage. Et en fait, le personnage, l'avatar du jeu, va être déterminé en fonction du choix des grands-parents et des parents qu'on a fait. Et du coup, on peut avoir des résultats assez, assez marrants.
Le jeu des rencontres improbables.
Voilà.
C'est un peu ça, ouais.
Et donc après, on peut un peu plus spécialiser son personnage, notamment en imaginant la journée de son personnage, combien de temps il va accorder au sommeil, combien de temps il va accorder à ses activités illégales, ses activités légales, ses amis, le sport, ainsi de suite.
Ce qui change son look d'ailleurs.
Oui, effectivement, ça change. Ses fringues de départ changent. Si on est un personnage très extraverti, on commence avec des tenues un peu
sexy pour les
un peu
filles,
sexy pour les filles ou un peu déjantées pour les mecs. Et finalement, la seule liberté qu'on a vraiment avec le personnage, c'est de choisir le genre auquel on appartient, comme vient de le mentionner Benoît. C'est que on peut incarner une fille dans GTA Online, ce qui est une grande première. Et certains penseront sûrement comme moi que si ce genre de personnage trouve son public dans GTA Online, On peut imaginer enfin un personnage féminin dans un GTA, dans l'histoire principale, qui pourrait avoir un rôle important. Et du coup, par exemple, imaginons un GTA 6 avec trois personnages, comme dans ce cinquième épisode, dont une fille parmi les trois. Ça pourrait créer de nouvelles opportunités de scénario très très intéressantes. Bon, tout n'est pas rose par contre pour ce GTA Online, parce qu'on peut, facilement douter du choix de microtransactions de Rockstar, notamment ce qui permet en fait d'investir de l'argent réel pour gonfler son portefeuille d'argent virtuel et donc d'acheter à l'avance par rapport à d'autres joueurs ce qui, des armes ou des choses comme ça, qui peut donc poser des problèmes en termes d'équité d'un point de vue compétitivité dans les modes en ligne.
Et puis, est-ce que Rockstar a vraiment besoin de se faire des sous en plus?
Ah bah ça, c'est une autre question. Mais bon. C'est une entreprise, ils ne travaillent pas bénévolement. S'ils peuvent se faire plus d'argent, c'est normal. Mais d'un point de vue, aujourd'hui, on commence quand même à considérer que le jeu en ligne, c'est un sport à part entière, c'est de l'e-sport. Et donc, il faut quand même partir du principe que les joueurs doivent avoir le même jeu pour jouer. En tout cas, au moins au départ, il pourrait y avoir des mêmes joueurs qui ont le même niveau, mais pas un équipement similaire. Ce qui peut donc poser des problèmes. On imagine mal un jour le foot passer d'un mode où en fait on débloque les chaussures à crampons au bout de 10 buts et quelqu'un paye plus cher son inscription dans un club et commence avec les chaussures à crampons, quoi. Voilà, ouais. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, parce que j'ai joué à GTA Online maintenant, c'est juste impossible.
Après, à voir en effet si ce moyen de payer les accessoires va totalement déséquilibrer, est-ce qu'il y aura des accessoires qui seront totalement débloquables uniquement avec de l'argent, alors, ou est-ce que les joueurs pourront rattraper avec leur temps de jeu?
Alors, Rockstar, évidemment, pense que son système est équilibré. De toute façon, ce ne serait pas du très bon marketing de dire le contraire.
Ça va se tirer dans les
pattes. Alors oui, tout est débloquable dans le jeu, évidemment, mais ce n'est pas le cas pour tous les jeux, en fait. Ce n'est pas très évident. Mais oui, tout est débloquable dans le jeu, mais pour un temps beaucoup, beaucoup plus long. Et le jour J, si des gens achètent tout de suite un pack d'armes et que d'autres ne le font pas, le classement mondial d'un jeu en réseau se voit faussé automatiquement, quoi. Enfin, c'est mon point de vue, par contre.
Ouais. Et GTA, justement, on en reviendra tout à l'heure pendant le débat. On va passer pour l'instant à une recherche scientifique qui concerne la technologie. C'est Benoît qui va nous en parler beaucoup mieux que moi.
Oui, donc c'est l'info de la semaine et c'est une révolution dans l'évolution des transistors, en fait. Donc, c'est des scientifiques à l'université de Stanford, sur la côte ouest des États-Unis, qui ont annoncé qu'ils avaient réussi à construire le premier ordinateur composé de transistors faits en nanotubes de carbone. Donc ils ont publié leurs travaux dans la revue Nature Nanotechnologie en fin de semaine dernière. Donc je vous avoue que cette innovation, elle est assez complexe. Et je vais commencer par vous rappeler ce que sont les transistors classiques et pourquoi c'est intéressant de les remplacer par des nouveaux transistors, ceux-ci composés donc, de nanotechnologie en fait. Donc le transistor au silicium, il est considéré comme une des inventions les plus importantes du XXe siècle. C'est un composant électronique à base de silicium inventé en 1947. Donc il a valu un prix Nobel de physique pour ses inventeurs. Il sert par exemple à amplifier un signal ou à stabiliser une tension, ou il se comporte comme semi-conducteur, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé comme interrupteur selon le voltage qu'il traverse. Bref, il a beaucoup d'utilisations possibles et c'est le composant essentiel de tous les circuits imprimés en fait. On le retrouve dans les télés, en remplacement des tubes cathodiques par exemple. Ils sont présents dans les smartphones, dans les appareils photo, dans les ordinateurs, enfin dans tous les appareils électroniques. Et au fur et à mesure des années, les recherches ont réussi à les rendre de plus en plus petits et de plus en plus rapides. Donc c'est ce que nous disent les lois de Moore, le cofondateur d'Intel Corporation. Ça se vérifie quand on compare par exemple la taille des premiers ordinateurs avec ceux qu'on a actuellement chez nous, quoi.
En effet, il y a eu une diminution.
Une grosse diminution. Cependant, ces transistors en silicium, malgré leur évolution et leur miniaturisation, posent deux problèmes majeurs. Donc, le premier, c'est qu'ils consomment énormément d'énergie. Donc, avec plusieurs millions de transistors sur un microprocesseur, votre ordinateur, il est très gourmand en électricité. Hein. Et le second inconvénient, c'est qu'il dégage beaucoup de chaleur. Donc, ça peut poser des sérieux problèmes à votre ordinateur. Donc, des chercheurs ont essayé de contourner ce problème, notamment en étudiant la nanotechnologie, et plus précisément les nanotubes de carbone, en fait, pardon. Donc on ne sait pas trop qui est le premier à avoir observé ces nanotubes, ils se disputent un peu pour savoir. Mais toujours est-il qu'ils ont toujours plus ou moins existé dans la suie après un feu par exemple. Mais jusqu'à présent on ne connaissait pas très très bien leurs utilisations possibles, et beaucoup de chercheurs leur promettaient déjà un avenir certain. En effet, ces tubes de carbone ont des propriétés très intéressantes. Donc c'est un matériau ultra résistant et ultra léger, Ils se comportent comme semi-conducteurs, donc comme les transistors au silicium classique. Hein. Ils sont aussi nanoscopiques, donc pour vous donner un ordre de grandeur, vous pouvez en mettre 100 000 côte à côte dans un seul de vos cheveux. Donc c'est assez impressionnant. Mais le plus intéressant, c'est qu'ils ne chauffent presque pas et qu'ils consomment une quantité d'énergie dérisoire lorsqu'on les compare en tant que transistors, quoi. Lorsqu'on les utilise, pardon, en tant que transistors. Donc c'est naturellement hein, que le groupe de chercheurs dirigé par monsieur Subhasish Mitra a orienté son travail vers ce matériau ouais, très prometteur quand même. Ils sont cependant heurtés à quelques problèmes, donc je vais vous en citer un. Il apparaîtrait qu'une infime partie de ces nanotubes se comportent comme des métaux et pas comme des semi-conducteurs. Donc on pourrait contrôler la conductivité en fait. Donc pour pallier à ce problème, ils ont fait en sorte d'isoler ces nanotubes, les nanotubes normaux, si on peut dire ça comme ça en fait. Et ils ont envoyé une grosse décharge d'électricité dans les nanotubes qui se comportaient comme des métaux. Donc résultat, ils ont grillé et puis après, il restait que ceux qui étaient viables en fait. Donc toujours est-il qu'ils ont réussi à construire le premier ordinateur uniquement fait à base de transistors de ce nouveau type. Bon, et après, il est loin de rivaliser avec un MacBook Pro ou même l'iPhone 5C dont on parlait tout à l'heure. Mais il peut quand même exécuter un nombre infini de tâches tant qu'on lui donne de la mémoire, quoi. Il comporte environ 180 transistors, donc pour comparer, il y en a plusieurs millions dans un ordinateur classique. Hein. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour exploiter cette trouvaille, mais c'est en bonne voie, quoi. La vraie question maintenant, c'est à quand la commercialisation de ces nouveaux ordinateurs ? En fait, on ne sait pas vraiment. Il y en a qui disent 5 ans, certains 10 ans, mais toujours est-il que la nanotechnologie arrivera bientôt dans nos salons.
Ok, ben on va enchaîner avec le débat. Juste après une petite pause musicale, on s'écoute Eminem, Berserk. Now the shit's about to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this jack up, everybody get back. That's why my pen needs a pad, cause my rhyme's on a red tag. It's like I did with a Dixon, I'm about to break it. Like a magician, critics, I turn to break it. Got them still on the fence, whether to peek it. But quick to get in pale when I tell them peek it. So sick from looking pale, well that's my peek it. About to go ham, now this shout out to peek it. Let's bring it back to that vintage Slim bit. That I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace. So I guess it ain't that aftershave of cologne that made him just faint. Plus I showed up with a coat fresher than wet paint. So if love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, bang, bang, bang. Yes, sir, Bob, I was thinking the same thing. So come get on this kid's rock, Bob with the bob, dang, dang. Pow, 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 pow. Chicka, pow, chicka, wow, wow. Got your girl, I'm on a pow, 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 pow. And slow it down, throwing the town to the town, town. Throw it down, I don't know how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so. Now hold. Kick your shoes off. Let your hair down. All night long. Pull your beard out. Just weird out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the AM. So break the pace up like crazy. Let yourself go. Let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go. Love is powerful, this cough syrup and styrofoam. All I know is I fell asleep and woke up in that Monte Carlo with the ugly Kardashian Lamar. Oh, sorry, yo, we done both set the bar low. Bars hard, drugs are, though that's the past. But I done did enough codeine and not future in it tomorrow. And girl, I ain't got no money to borrow, but I am trying to find a way to get you alone. Cardio! Oh! Marshall Mathers, get out of the body now. Get the bar soap lathered. Kangos and call heartless cargoes. Now you're fixing to get your heart broke. Don't be absurd, man. You bird brain baby. I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. Word, Rick, word, man. You heard. But don't be discouraged, girl. This is urgent. Unless you got toe jack. Kick shoes off. Let your head out. All night long. Pull your beard out. Just beard out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it.
So we knock it down, so turn the volume loud. Cause it's spin to the haters, break the pace, apply crazy, and let yourself go, let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go for broke.
Et c'était Berserk de Eminem et on se retrouve dans High Tech News pour le débat. Alors cette semaine, le débat, c'est GTA, satire ou violence gratuite. Le titre de Rockstar qui est sorti le 17 septembre a fait pas mal parler de lui. On a rarement vu un jeu avoir autant d'articles dans la presse généraliste notamment. Et on reviendra sur un article de Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo, qui a écrit pour le Nouvel Observateur Le Plus un article qui est justement consacré à ce débat sur GTA. Est-ce que GTA critique la société ou est-ce que GTA viole les interdits pour les violer ? On va donc essayer de répondre à cette question, à donner chacun nos avis. Et avoir ce qu'en pense l'ensemble des chroniqueurs de l'émission. Alors, pour vous, GTA, satire ou violence gratuite, Clément ?
Pour moi, GTA, c'est clairement une critique de la société. Hein. Ça se voit, je pense, déjà dans son histoire, dans ses personnages, dans comment elle met en scène la violence et les abus que peuvent subir des personnages dans une société. On s'en souvient de GTA 4, c'était le plus parlant à ce niveau-là, mais on retrouve quand même ce genre d'histoire dans le cinquième, dans le quatrième. GTA 4, c'était Nico Bellic, c'était une espèce d'immigré qui arrivait parce qu'on lui avait vendu du rêve aux États-Unis et qui finalement se trouvait dans une situation dont il ne pouvait pas se sortir. Et GTA 5, on retrouve un peu un personnage similaire qui grandit dans une banlieue et qui n'a... qui se retrouve finalement piégé par son environnement et se retrouve du coup à faire des débraquages. GTA, c'est pas seulement, selon moi, une critique de la société par son histoire, c'est aussi son environnement, l'environnement dans lequel le joueur évolue, le changement des noms, des lieux, en fait, des lieux connus qui sont repris, ont des noms modifiés. La statue de la liberté est appelée la statue de l'hilarité, par exemple. Ça montre bien une envie de critiquer un système, en fait, finalement. On voit que tout ce qui concerne la justice dans les GTA, montre évidemment des bavures qu'on voit tous les jours aux infos, quoi.
Oui, parce que il faut rappeler aussi que GTA, donc dans tous les GTA, c'est des villes, c'est des reproductions, en fait, de villes qui existent vraiment, en fait. Par exemple, dans le dernier GTA, GTA 5, la ville dans laquelle on évolue, donc c'est Los Santos. C'est la reproduction de Los Angeles, en fait.
Ouais. Et Liberty City dans GTA 4, qui est la reproduction de New York. Mais alors, est-ce que justement cette capacité de GTA à détourner un petit peu la réalité, à s'en moquer, est-ce qu'elle a un fond ? Est-ce qu'on la ressent quand on joue au jeu ? Ou est-ce que justement on a l'impression que c'est de la critique pour de la critique.
Moi je pense qu'on est en droit de se poser la question puisque on en arrive à un univers qui est quand même détaché de la réalité. Donc est-ce qu'on peut vraiment comparer ? Je sais pas. GTA, c'est pas ça a toujours été. C'est pas vraiment comparable. GTA, ça a toujours été des jeux qui ont prêté à la controverse. Ça a toujours été interdit aux moins de 18 ans, ultra violent.
Toujours donc, dans l'excès, en fait.
Toujours dans l'excès, voilà. Et donc, c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce qu'ils ne vont pas dans l'excès ou est-ce juste pour aller dans l'excès ?
Justement, moi, je pense qu'en fait, la satire sociale, de toute façon, est liée. Ça, comme l'a dit Clément, hein, c'est vraiment se moquer d'un mode de vie, en fait, je pense. Mais c'est vrai que la violence, mine de rien, ça fait vendre. Parce que j'étais à 5... quand on voit dans les cours de récréation, au collège, les gens, enfin les gamins, ils sont super fiers d'avoir joué à GTA parce que justement, voilà, ils sont allés tuer des gens en plein milieu de la rue. Enfin, c'est cool, quoi. Il y a l'adrénaline. mais c'est vrai que c'est un peu toujours dans l'excès. Et puis,
Ouais, justement, on va faire une parenthèse plus ou moins longue sur cet aspect-là. Justement, on a vu beaucoup de gens dénoncer le fait que les vendeurs arrivaient à procurer GTA V à des mineurs. Je rappelle que sur les jeux vidéo, comme sur les films, comme sur beaucoup d'autres productions culturelles, il y a une signalétique. Dans le cas du jeu vidéo, PEGI, qui indique si le jeu est déconseillé aux moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Dans le cas de GTA V, le jeu est déconseillé aux moins de 18 ans. Est-ce qu'il est normal de voir des vendeurs vendre un jeu déconseillé aux moins de 10 ans? Il n'est pas interdit. Hein. Ils sont libres de le faire. Mais est-ce que moralement, il est normal que ces vendeurs le fassent?
Moi, je pense que les vendeurs, effectivement, ils devraient se poser la question. Ils devraient se dire qu'il ne faut pas parce que je pense qu'un gamin très jeune qui achète GTA V, c'est de la responsabilité des parents, évidemment, même si les parents ne peuvent pas toujours contrôler. Mais un gamin qui joue chez lui, par exemple, la console peut être mise dans le lieu, le salon, là où tout le monde peut voir, en fait. Je pense que c'est ça. Le problème, il est là, en fait. C'est que si des gamins trop jeunes jouent GTA V, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle. Après, évidemment, que le gamin va toujours pouvoir aller jouer ailleurs. Mais je pense que le problème, c'est le vendeur, il peut vendre le jeu, il n'y a pas de souci. Parce que quand on est ado ou adulte ou adolescent, on sait faire la distinction entre la réalité et le monde, la réalité et le jeu vidéo. Et la violence d'un GTA, qui est extrême, on est tous d'accord sur ça, ne va pas inciter quelqu'un à être violent ou à interpréter ça comme quelque chose de vrai, parce que justement, il est capable de faire cette distinction. Mais un petit enfant de 10 ans n'en est pas forcément capable. Et là, dans ce cas, il faut un contrôle, c'est sûr. Mais je pense que ce contrôle-là ne peut venir que des parents.
Donc toi, tu penses que les vendeurs n'ont aucun rôle à jouer là-dessus, c'est vraiment uniquement les parents, quoi.
Quand un enfant de 10 ans, de toute façon, va acheter un jeu, il ne va pas l'acheter tout seul, pas à 10 ans, je pense. Et ça ne devrait pas être le cas.
Pas à 10 ans, mais à 15 ans. À 15 ans, imaginons.
À 15 ans, je jouais déjà à des jeux typés 18. Et à 15 ans, on fait très bien cette distinction, je pense.
Pas forcément.
Pas. Ça dépend. En fait, si l'enfant évolue dans un contexte sécurisant, dans une famille, dans un contexte sécurisant, pour moi, il n'y a pas de danger. C'est vrai que ça dépend de quel enfant on va jouer. Parce qu'un enfant qui évolue dans un contexte familial... non sécurisé, enfin je voyais ce que je veux dire dans ce genre de propos, et va effectivement ne pas savoir où est cette limite. Mais est-ce qu'on peut penser en termes de d'exception comme ça, enfin
sur un jeu on peut pas dire tiens on va le vendre à telle catégorie d'enfants même s'ils ont le même âge et pas à d'autres, quoi. C'est typiquement impossible. Et puis le vendeur, enfin pour moi en tout cas, le vendeur a une responsabilité de par la vente, quoi. Et moi, ce que je pense, c'est que s'il le vend quand même, c'est vraiment à cause de la rentabilité du jeu, tout simplement, et de la rentabilité de la boîte qui veut vendre le jeu, quoi.
Oui, là, on est d'accord, c'est que le vendeur, s'il voit un gamin de 10 ans, ne devrait pas lui vendre. Ça, c'est sûr. Mais
est-ce que là, justement, ce n'est pas la responsabilité des lois de s'appliquer et de limiter la vente aux mineurs de certains titres? Je trouverais légitime qu'on limite... Alors, peut-être pas, je n'irais pas... jusqu'à dire moins de 18 ans, une interdiction, mais du moins pour les consommateurs les plus jeunes, il y a des propos, notamment dans GTA V, qui vont encore plus loin, qui peuvent être dérangeants.
C'est plus que des propos dans GTA V. C'est des missions qui nous forcent à faire des choses qui m'ont moi-même vraiment choqué dans GTA V. C'est
Moi, honnêtement, moi, dans GTA V, pour y avoir joué, le truc qui m'a vraiment marqué, moi, c'est surtout les dialogues. Ouais, c'est vraiment les propos, parce que c'est des trucs, c'est très cru, ça va vachement loin. C'est des insultes qui sont assez violentes quand même.
On peut dire ça.
Et donc, ouais, comme tu parlais des lois, ouais, moi, je pense que c'est la responsabilité de la loi au bout d'un moment, de mettre une limite pour ce genre de jeu, c'est-à-dire que d'autoriser, mettons, des jeunes de 15, 16, 17 ans à pouvoir l'acheter. Mais quand même, je trouve, 10, 12 ans, ça fait quand même super jeune pour acheter ce genre de jeu. Et ça, ouais, ça, c'est de la responsabilité de la loi de remédier à ça, quoi.
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le moins de 18 qu'il y a sur les jeux, ça, c'est la PEGI, ce qu'on appelle, en fait, c'est Pan-European Game Information. Et en fait, ils mettent moins de 18, mais c'est juste pour informer. Là, il n'y a pas de loi pour ça. Mais par contre, pour d'autres pays, par exemple l'Angleterre, là, il me semble que c'est sorti récemment, l'Angleterre, ça, la PEGI a force de loi. Donc, c'est-à-dire que si un vendeur vend un jeu interdit aux moins de 18 ans à un gamin qui a moins de 18 ans, Ben, ils risquent quand même jusqu'à 5000 euros d'amende. Donc ça commence à s'implanter apparemment, donc en Angleterre c'est le cas. Est-ce que la France se pose la question? Est-ce que la France devrait se poser la question? Ça c'est une autre histoire.
Préparez-vous pour GTA 6, il faudra aller l'acheter en arrière-boutique.
Exactement.
Et du coup, cette violence justement, pour en revenir, parce qu'on ne va pas en dire que du mal quand même, ce serait dommage, elle a quand même une force critique assez étonnante, notamment dans GTA. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné dans ce type de jeu réussir à aller loin pour critiquer fort?
Bah si, c'est complètement ça. C'est que, enfin, pour moi en tout cas, on peut pas vraiment critiquer si on ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que le fait d'être ultra violent, d'inclure de la prostitution, du meurtre, voilà, pour le 5, des braquages qui sont quand même assez
épique,
assez musclés, on va dire, ouais, épique, ouais. Bah c'est très violent, mais il n'empêche que ça montre quand même un certain aspect de notre société qui est certes exagéré, mais qui est quand même là.
Alors pour ceux qui nous suivent, je vais faire un léger synopsis quand même de GTA V, histoire que vous remettiez les choses dans leur contexte. GTA V, ça nous raconte l'histoire de trois personnages qui ont le destin lié par de futurs braquages qu'ils vont devoir commettre ensemble. Alors on a trois personnages totalement différents, psychologie différente, qu'on peut incarner à tour de rôle et au moment où l'on veut. Et cette narration se fait sur trois plans avec Franklin, Michael et Trevor qui sont amenés chacun à devoir s'associer pour braquer des banques et pour pouvoir accumuler le plus d'argent possible pour des raisons différentes et pour des raisons qui sont là, typiquement liées à cette critique de société, la société où
il faut faire des sous,
voilà,
peu importe les moyens.
La fin justifie les moyens. Alors justement, ce GTA V, est-ce que l'évolution technique aussi, on voit l'évolution des graphismes depuis GTA 4, GTA 3, GTA San Andreas, bref, il y a un gouffre entre tous ces jeux. Aujourd'hui, est-ce que l'évolution technique ne fait pas que ces jeux sont devenus tellement réalistes que justement cette violence est plus ressentie?
Si, sûrement.
Alors bien sûr, ouais, le réalisme fait sur... forcément, quand on voit un meurtre en pixels, ça a tout de suite beaucoup moins de gueule qu'un meurtre là où il y a plein de sang, là où c'est très bien fait et c'est très réel, quoi. Donc forcément, quand on regarde un jeu qui est très bien fait comme GTA V, parce que GTA V, il faut le dire, il est très bien fait, quand on voit un jeu comme ça qui nous présente une violence extrême, mais aussi réaliste, c'est là qu'on voit vraiment tout l'impact que ça peut avoir, quoi.
Bah, je pense qu'on prend la mesure... On réalise à quel point le graphisme, ça joue un rôle dans cette sensation. C'est la scène de torture dans GTA V qui est absolument hyper réaliste et qui du coup pose vraiment des questions éthiques en fait. Parce que, ok, on peut critiquer, mais est-ce qu'on doit pourtant le faire à quelqu'un? Parce que dans cette mission-là, on torture littéralement quelqu'un. On nous oblige à briser le genou d'une personne, de le passer sous électricité. Et en fait, moi, quand j'ai joué cette scène-là, c'était tellement réaliste que j'étais très 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 mal en jouant cette scène. Il y avait une musique qui alourdissait le tout. Et une fois qu'on a passé cette horreur, vraiment, eh ben, on a quelqu'un qui nous, enfin, on a un des personnages du jeu qui va nous dire, eh ben, ce que tu viens de faire là, c'est absolument abominable. Et du coup, là, on est vraiment dans la critique de la torture, vraiment. Mais est-ce que il fallait nous faire réaliser que la torture c'est mal en nous faisant passer par ça?
Alors est-ce que pour quelqu'un qui est psychologiquement fragile, de jouer, même s'il a plus de 18 ans, là c'est plus une histoire d'âge, mais de jouer un jeu comme ça, de voir quelqu'un se faire torturer et d'être obligé d'être l'acteur de ça, est-ce que ça aura pas aussi un impact sur la personne en lui-même, mais au niveau de ses actes, quoi?
Ouais, après, ça, c'est une question. La question se pose pour tout à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où tu es psychologiquement fragile, de toute manière, peu importe ce que tu vois, à partir du moment où c'est violent,
on ne fait pas
une œuvre d'art en pensant à qui est éventuellement psychologiquement fragile, parce que sinon, dans ce cas, on se retrouve à s'auto-censurer, et l'auto-censure, c'est rien, on ne fait plus rien dans ce
chiant que l'on voit.
Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Beyond Two Souls récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais les créateurs de Beyond Two Souls, donc David Cage, ils se sont auto-censurés et ils ont supprimé des passages de leur jeu en fonction du pays, avant même qu'on le leur dise. Parce qu'ils ne voulaient pas se fermer à un certain public ou peur de choquer un certain type de personnes. Donc là, c'est lié à la question de l'art directement. Quoi. Qu'est-ce qu'on, jusqu'où on peut aller pour créer une œuvre et jusqu'où on ne peut pas aller, quoi.
Ouais, mais là, dans le cas de Beyond Two Souls, petite parenthèse, mais là, je ne vois même pas l'intérêt pour le studio de s'auto-censurer, étant donné que de toute façon, qu'ils aient un PEGI 16 ou un PEGI 18, ça ne changera pas grand-chose à l'achat du jeu. De toute manière, les gens achèteront et ne regarderont même pas au-dos de la jaquette. Donc,
ouais, c'est vrai qu'il faut le dire, les gens, en général, ils ne savent même pas quand ils achètent le jeu, si c'est moins de 16, moins de 18, les gens ne regardent pas. Quoi. Ça, c'est un fait.
Bah ouais. Moi-même, je regarde pas quand j'achète un jeu, juste dernièrement, je vais pas aller regarder. Hein, tiens, c'est interdit, moins de 18 ans.
En même temps, t'as plus de 18 ans.
Oui, non, mais.
Ce qui explique.
Je l'ai jamais fait, en tout cas. Voilà.
Pour en revenir à GTA, fait qui est assez intéressant dans celui-ci, c'est que, comme dans les autres GTA, on va pas vous obliger à commettre d'assassinat direct. J'entends bien. Que vous allez buter des gens dans GTA. C'est un fait.
Voilà, c'est la
un
marque.
Fait,
quoi.
Mais les gens que vous allez tuer seront de la légitime défense, entre guillemets. Je prends des gros guillemets hein, là parce que ça. Je vais paraître pour un psychopathe.
Mais je pense qu'il faut. Il faut.
Et, mais sur, en tout cas, les assassinats de sang-froid, pardon, on ne vous obligera jamais à les commettre. Vous aurez toujours le choix de vous comporter décemment dans la ville. Ou de shooter le premier mec qui passe un passage piéton devant vous.
Comme un citoyen modèle.
Voilà, vous avez même le choix de respecter les feux rouges, si vous voulez. C'est très chiant, mais
ça,
vous avez
formidable.
Le choix.
Voilà. Le choix moral se pose souvent en joueur. Et est-ce que, justement, il n'est pas là l'intérêt de GTA sur le choix moral que le joueur a à faire?
Ah si, tout l'intérêt est là, justement.
Mais alors, par contre, le choix moral, il est très vite fait. Je veux dire, tous les joueurs de GTA, il y en a peut-être, il y en a peut-être 0,5% même pas qui
Alors moi, perso, je ne shoot pas les piétons, mais je respecte pas les feux rouges.
Ah bah tiens, bah voilà.
Et ça t'est jamais arrivé de prendre n'importe quelle arme dans ton arsenal et puis d'aller buter tout le monde dans la rue?
Alors, à la fin de la partie, quand j'en ai vraiment marre...
Voilà, c'est ça.
Oui, on a un choix moral, mais dans un GTA, je trouve que ce choix moral-là, il n'est pas assez mis en évidence. On n'est pas assez récompensé par le bon comportement, en fait. Et c'est le problème de... Enfin, ça se fait de plus en plus sur les jeux, heureusement. Moi, je pense par exemple souvent à Metal Gear Solid, qui est un jeu qui... clairement nous incite à ne tuer personne pour avoir des récompenses de fou en fait, et ça va en lien avec l'histoire parce que le jeu t'incite constamment, enfin le jeu est anti-militariste et il t'incite constamment à être contre la guerre ou la violence, et du coup en fait finalement ne tuer personne et avoir la récompense qui va avec est en accord avec l'histoire. Dans GTA c'est pas le cas en fait, même si on a un choix moral. Finalement les personnages, Michael dans GTA 5, il le dit clairement au début du jeu, il en a rien à foutre de tuer des gens.
Je pense que le pire dans le jeu, c'est quand même Trevor.
Ouais, mais justement, c'est ce que je voulais dire.
Trevor est fou.
Bah voilà.
Il est psychologiquement complètement atteint. Donc du coup, incarner un personnage comme ça, c'est assez déstabilisant la première fois, bizarrement en fait.
Mais je trouve, moi, Trevor, c'est un peu un personnage qui met des barrières au jeu propre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est tellement dérangé et il a tellement le meurtre facile qu'après, ta façon de jouer avec lui va être pareille. C'est-à-dire que tu vas avoir le meurtre facile, quoi. C'est-à-dire que tu vas forcément aller renverser des gens sur la route parce que c'est Trevor, parce qu'il est cinglé, quoi, en gros.
Ouais, c'est ça qui est intéressant entre les trois personnages de GTA V, c'est que tu as une façon de te comporter assez différente en fonction du personnage que tu incarnes. Et c'est là que ça montre que la psychologie en fait, du personnage que tu es en train d'incarner, elle a un impact sur toi. Quand tu joues Trevor, t'es un psychopathe. Quand tu joues Franklin, bah, tu l'as un peu aussi, mais de manière un peu modérée. Et quand t'es Michael, t'es classe.
ça,
c'est un bon résumé, ça. Michael, c'est la classe incarnée.
Je vous ai résumé le jeu, pas à peine de l'acheter.
Vous avez tout le jeu en direct là.
Et du coup, les autres questions qui se posent, parce que là on a fait le tour un petit peu du choix moral, de l'évolution des graphismes, etc. Est-ce que ce GTA 5 est clairement le GTA qui a été le plus loin? Est-ce que Rockstar n'a pas un besoin pour continuer d'exister, de toujours repousser ses frontières de l'acceptable?
Alors déjà, au niveau budget, c'est là qu'ils sont allés le plus loin, parce qu'ils ont mis le paquet Rockstar sur le coup, puisqu'ils ont mis à peu près 200 millions d'euros, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est comparable aux réalisations hollywoodiennes. Donc c'est vraiment un jeu qui... là où ils ont mis énormément de budget, et ça a été assez vite rentabilisé, puisqu'en 3 jours, ils ont dépassé le milliard de bénéfices.
Donc ça, enfin moi je pense au niveau, surtout au niveau des précommandes, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 millions de précommandes, ça montre que qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'aller. J'ai l'impression qu'ils se sont créés le besoin d'aller plus loin en fait à chaque fois, parce que les gens ne savaient pas vraiment le contenu qu'il allait avoir le jeu, et ils l'ont quand même acheté. Donc Rockstar, non, je pense pas qu'ils aient besoin d'en rajouter plus encore à chaque fois.
L'achat, ouais, c'est pas fait sur la violence démesurée de ce GTA V. Ça, les gens pouvaient pas le savoir. Elle s'est plutôt fait sur le temps d'attente. Ça fait maintenant quoi, 6 ans qu'on l'attendait, GTA V. C'est une grosse communauté, la communauté de Rockstar, et les gens n'ont cessé d'attendre qu'un nouveau GTA sur cette nouvelle génération de consoles, et c'est ce qui a fait que les précommandes elles sont grosses, parce que les gens ont commencé à précommander déjà très tôt. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà précommandé leur GTA V depuis 2 ans.
Ouais, depuis son annonce au moins. GTA maintenant c'est vraiment un nom qui fait vendre, ils n'ont plus besoin d'aller chercher à aller plus loin. C'est un peu l'effet Call of Duty quoi. On va pouvoir faire 3 jeux pourris de suite, et le jeu se vendra quand même à des millions et des millions d'exemplaires, parce qu'on a l'espérance que le jeu sera aussi bien que celui d'avant.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais en même temps quand on parle de GTA, le jeu, donc on a dit qu'il y avait énormément de précommandes, mais est-ce que les gens, enfin ça c'est une question que je pose, est-ce que les gens ils savaient pas, même sans que personne l'ait dit, est-ce qu'ils ne savaient pas que GTA V, ils allaient dépasser leurs limites au niveau violence, au niveau contenu, au niveau mission, au niveau...
Je pense que les gens savaient que ça allait être violent. Parce que c'est un peu la marque de fabrique de GTA, c'est-à-dire que c'est nos limites, quoi. C'est vraiment, tu fais un peu ce que tu veux. Mais est-ce qu'ils s'attendaient à ce que ça aille plus loin? Je ne suis pas sûr.
Moi, je pense que si. Je pense que si, parce que ces derniers temps, en fait, on a vu une baisse de la censure dans les jeux vidéo, notamment tout ce qui concerne le sexe. Et Rockstar a toujours été très porté sur la question sur ces jeux. Déjà, dans Red Dead Redemption, on voyait une scène de cul, en fait, dans une mission au départ. Le mec te donnait ta mission, il était en train de se taper sa bonne femme devant toi pendant qu'il te parlait. Et déjà, on voyait ça. Et en fait, du coup, après, on parle de God of War. Alors, God of War, on voit des dessins à l'appel aussi. Et je me dis qu'en fait, les gens, ils devaient se dire que maintenant que cette censure-là est en baisse dans le jeu vidéo, ils disaient que GTA V, un jeu aussi porté sur ce genre de choses, c'était obligé qu'ils dépassent leurs limites. Et on le voit, mais combien de fois tu vois ce genre de trucs dans ce jeu, quoi? Dans GTA V, voilà quoi.
Ouais, ils le savaient, mais après, est-ce que c'est ça qui a fait le succès? Je pense que ouais.
Après, Rockstar, ça n'a rien à voir avec la violence. Hein. C'est une autre
en effet,
de
est devenu gage de qualité, en fait, Rockstar. Le fait est que c'est pour l'instant, ils ont démontré qu'ils sont capables de faire des bons jeux, capables de se surpasser d'un jeu à l'autre, et que ce soit... Enfin, j'ai pas d'exemple de jeu naze de Rockstar sur cette génération de consoles.
Bah, il y en a clairement aucun là.
Ouais.
Si, Max Payne 3 qui peut décevoir, mais c'est clairement un bon jeu.
Mais
qu'on
c'est
l'aime
un
ou pas.
Bon jeu, c'est pas une merde en tout cas.
Ah non, ça c'est.
Rockstar, ouais, est devenu clairement un gage de qualité, et les gens maintenant, et moi le premier, je suis prêt à acheter un jeu Rockstar les yeux fermés, parce que je sais que dedans il va y avoir du contenu, il va y avoir du travail. C'est pas un jeu fait à la va-vite dans un garage en 2 mois. Et voilà.
Et il va y avoir de l'investissement aussi, parce que 200 millions pour un jeu, c'est quand même.
Et puis ils dépassent leurs limites à chaque fois. GTA V, c'est clairement, pour parler de technologie, là pour le coup, c'est clairement le plus beau open world qu'on ait eu. Alors, ok, c'est pas, on va dire, qu'il n'y a pas 15 000 quêtes au mètre carré comme dans un Elder Scrolls, mais il y a quand même. Enfin, on est sur une console, en fin de vie, et on a des graphismes qu'on.
Enfin, la qualité est là,
c'est
quoi.
C'est un truc de fou, quoi.
Ouais.
Ils arrivent encore à nous surprendre, même sur une console en fin de vie. En fait.
Bah, ouais, on pensait pas qu'on pourrait faire ça avec une PS3. Enfin, moi, je m'imaginais pas. Il y avait The Last of Us, mais c'était un truc fermé. Ouais. Là, c'est un truc ouvert. On a des détails sur les personnages. Même les PNJ qui passent dans la rue, bah, ils ont le minimum syndical en termes de qualité, quoi.
Et justement, ouais, ces PNJ, j'allais en venir. Ils sont de plus en plus nombreux dans GTA V. Il y a vraiment un écosystème autour de soi. On n'est plus le centre du monde. Non, puis, on n'a plus l'impression de.
C'est un truc tout con, mais c'est rien que sur la route, il y a des heures de pointe.
Ouais.
Ça, déjà, rien moi, je trouve
les
ça
embouteillages,
c'est bien
on
foutu.
On a vraiment l'impression qu'il y a une société qui vit autour de nous, et ça augmente peut-être le sens critique du jeu, fait qu'on constate cette société qui est pleine de débauches et tout ce qu'on veut. La société, à peu près comme elle est, au final, c'est pas si caricaturé que ça.
Mais on peut même acheter des actions en bourse dans le jeu, donc c'est pour dire à quel point
ça c'est cool.
Ouais, ça c'est cool, ouais. Devenez riche légalement. Wouh!
Ah oui, c'est vrai que c'est pas si caricaturé que ça finalement, parce que ils partent dans la caricature, ils annoncent le jeu comme quelque chose de caricatural, mais tous les GTA, enfin le 4 surtout et le 5, je trouve que ça commence, c'est vrai que c'est caricatural, mais plus ça va, plus on tourne vers quelque chose de réaliste, et là on a vraiment l'impression d'avoir une espèce de semi-documentaire mais ultra violent en fait, et qui du coup, bah là pour le coup, pour moi est vraiment on est vraiment dans une vraie bonne critique, et je pense pas que le monde chez les gangsters soit plus gentil que ce qu'on voit dedans. Enfin, pour moi, ils en font pas trop, en fait.
Bah, la preuve, c'est qu'ils ont pris des vrais gangsters.
On a dit ça tout à l'heure qu'ils en faisaient trop, mais qu'est-ce qu'on en sait, finalement, de comment ça se passe, nous, vraiment, dans ce milieu-là ?
Bah non, c'est vrai.
Je pense que quand quelqu'un se fait vraiment découper à la tronçonneuse, comme on a pu entendre parler, c'est aussi gore que dans GTA. C'est...
Ou même peut-être plus.
Oui, sûrement plus. Sûrement, on ne peut pas démembrer les mecs. Là, franchement, pour parler technologie encore, le moteur graphique de GTA, ils sont bien inspirés de Max Payne 3. Maintenant, tous les impacts de balles sont sur les corps. C'est-à-dire qu'on peut trouver un mec jusqu'à ce qu'il ressemble à plus à rien. Quoi. Enfin, c'est... Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Non, c'est hyper violent, mais en même temps, est-ce qu'ils exagèrent ? Non, je pense pas.
Ouais, mais... On peut penser, enfin, je pense qu'on est en droit de se dire qu'ils exagèrent, mais enfin, pour moi, je pense
d'ailleurs,
pas qu'ils exagèrent.
Il y en a plein qui le pensent, hein, que GTA exagère, parce que ça, sur le net, en tout cas, même dans les journaux papier, ça pullule d'articles qui dénoncent GTA comme une abomination, comme quelque chose qu'il faut surtout pas acheter, c'est le diable, quoi. GTA,
ouais, mais
c'est
ils
le
sont
diable.
Taclés de tous les côtés, quoi.
Alors que, bon, on rappelle, hein, il y a quand même écrit moins de 18 dessous, sur la jaquette en tout cas, il y a écrit moins de 18, ça se vend pas à n'importe qui, mais on continue dans la presse à les attaquer, quoi.
C'est pour ça, je pense que Rockstar, là, vu le jeu qu'ils ont sorti, ils ont plutôt pas intérêt de se prendre une tôle sur le prochain jeu, parce que là, ils vont se faire saigner, quoi. Et ils n'ont plus le choix, clair. Ils sont obligés de pondre des bons jeux à chaque fois maintenant.
Bah, le problème, c'est que là, si on se rend compte que le prochain GTA, c'est une daube, si on s'en rend compte, il va quand même être acheté parce qu'il y a un passif, hein,
parce que
Rockstar,
c'est GTA,
voilà. Quoi, ouais. Mais n'empêche que les critiques vont prendre beaucoup plus de poids, je pense. Et c'est-à-dire que tous ceux qui diront que c'est de la violence gratuite, que c'est voilà,
bah, là, on va
vu
écouter.
Que le jeu ne sera pas porté par les fans. Je pense que du coup ça aura beaucoup plus d'impact et je pense que la licence GTA risquerait de pas s'en sortir, quoi.
C'est vrai.
Et messieurs, la presse écrite, par pitié, mettez le jeu dans votre console avant d'en parler, quoi. c'est incroyable, quoi, ce qu'on a pu lire. Il y a des choses, qui vont vachement loin pour un jeu qui au final a un fond, parce que typiquement des jeux qui n'ont pas de fond, qui sont violents, il y en a, je peux en sortir à l'appel. À commencer par Call of Duty et sur un jeu comme ça qui fait un effort de scénarisation, qui raconte une histoire, qui critique sa propre société, parce qu'il ne faut pas oublier que Rockstar est une boîte américaine et qui critique leur propre société, ce qui est très rare aux États-Unis, très très rare même. Ça vaut au moins l'effort d'être salué, quoi.
Ce qui est énorme avec la critique d'un GTA, je trouve, c'est que y a des films qui critiquent la société américaine. Il y en a quand même quelques-uns. Le dernier que je pense là tout de suite, c'est Avatar, mais c'est de la critique pleine de bons sentiments, en fait. Celle qui va nous dire, bah oui, évidemment, c'est comme ça qu'on doit penser, c'est comme ci, comme ça. Et finalement, le truc devient inattaquable parce que justement, c'est plein de bons sentiments. GTA, il va critiquer de manière violente, il va montrer des choses, mais il va pas y aller en se disant. Voilà, on va essayer de plaire à tout le monde, au monde ce qui va pas, et à un point, même ce que les gens ne veulent pas supporter, en fait.